Chapitre 21. Avez-vous remarqué que dans un voyage, même très long, c'est souvent la première semaine qui ressort le plus clairement dans votre mémoire? C'est peut-être dû à une sorte d'amplification des perceptions induites par le changement, ou à un réflexe d'essence, ou simplement au fait que le charme de la nouveauté s'émousse vite. Toujours est-il que, dans mon expérience personnelle, les premiers jours passés dans un endroit, ou bien la rencontre de nouvelles personnes, donne invariablement le ton à tout le reste du voyage. Et, dans ce cas précis, au reste de mon existence. Nous passâmes les premiers jours de notre magnifique aventure à dormir. L'enfant était littéralement épuisé, et je dus admettre, en me réveillant au bout de 16 heures de sommeil ininterrompu, que je l'étais moi aussi. Je suis incapable de dire comment Abetic occupait son temps pendant nos longues périodes de sommeil. J'ignorais encore que les androïdes dorment aussi, mais n'ont besoin que d'une infime fraction du temps que nous passons dans un semi-coma. Je sais cependant qu'il avait installé un hamac dans la chambre des machines, qu'il avait posé autour les maigres possessions que contenait son paquetage, et qu'il passait là une grande partie de son temps quand il n'était pas avec nous. J'avais demandé à Aîné d'occuper la chambre à coucher du haut, là où elle s'était douchée le matin de son arrivée, mais elle avait jeté son dévolu sur l'une des couchettes du pont de fugue dont elle avait fait son espace personnel. Je jouissais donc de l'énorme lit moelleux au centre de la chambre circulaire du nez du vaisseau, et je pus même, au bout de quelques jours, surmonter mon agoraphobie au point de laisser la coque devenir transparente et d'admirer le spectacle fractal de l'espace de Hawking qui m'entourait. Je ne la laissais jamais longtemps transparente, cependant. Les géométries pulsantes continuaient à me troubler d'une manière que j'ai peine à décrire. La bibliothèque et la fosse holo étaient, par accord tacite, notre espace de vie commun. La cuisine, que Abetic appelait la cambuse, était attenante au salon de la fosse holo où nous prenions généralement nos repas sur une table basse. Il nous arrivait aussi d'utiliser la table ronde près de la cabine de navigation. J'avoue que j'eus grand plaisir, à mon réveil, après avoir pris mon petit déjeuner, c'était l'après-midi sur Hyperion d'après l'horloge de bord, mais pourquoi nous conformer au temps d'Hyperion alors que j'avais toutes les chances de ne plus jamais revoir ce monde, à aller visiter la bibliothèque. Elle était riche en volumes anciens, tous publiés du temps de l'hégémonie ou avant, et je fus surpris d'y trouver un exemplaire de La Terre qui meurt, le poème épique de Martin Silenus, ainsi que des romans d'auteurs classiques que j'avais lus dans ma jeunesse et relus durant les longues nuits où je travaillais dans les marais et au bord du fleuve. Abetic me rejoignit dans la bibliothèque le premier jour, alors que j'examinais les titres, et sortit d'un rayon un petit volume à couverture verte en disant « Celui-ci vous intéressera, je pense ». Le titre était « Guide du voyageur à travers le Retz », avec une section spéciale sur le quartier marchand et sur le fleuve Tétis. « Cela m'intéresse beaucoup, en effet », lui dis-je en ouvrant le volume d'une main tremblante. Ce tremblement, je pense, venait du fait que nous étions véritablement en train de faire route vers ces régions. Nous allions visiter les anciens mondes du Retz. « En tant qu'artefact, ces volumes ont une valeur doublement inestimable », me dit l'androïde. « Ils viennent d'une époque où les informations étaient instantanément accessibles à tout le monde. » Je hochai la tête. Enfant, lorsque j'écoutais les récits de grandes âmes sur l'ancien temps, j'essayais d'imaginer un monde où tout le monde portait un implant et pouvait accéder quand il le voulait à l'infosphère. Naturellement, même à cette époque-là, Hyperion n'avait pas d'infosphère, il n'avait jamais fait partie du Retz. Mais la vie, pour la majorité des milliards d'habitants de l'hégémonie, devait être une stim-sim sans fin d'informations visuelles, auditives et imprimées. Rien d'étonnant à ce que la plupart des humains soient restés illettrés dans l'ancien temps. Apprendre à lire à tout le monde fut l'un des premiers objectifs de l'Église et des administrateurs de la Pax lorsque la société interstellaire fut raccommodée, longtemps après la chute. Ce jour-là, debout sur la moquette de la bibliothèque, entouré des boiseries vernies de teck et de cerisiers qui brillaient à la lumière, j'empruntais une demi-douzaine de volumes sur les rayons et les portais à la table de lecture. Aîné fit également une visite à la bibliothèque cet après-midi-là. Elle sortit immédiatement La Terre qui meurt de son rayon.
« Il n'y en avait pas d'exemplaire à Jacktown, » m'expliqua-t-elle. « Et l'oncle Martin a refusé de me laisser le lire quand je lui ai rendu visite. Il disait cependant que c'était la seule chose qu'il avait écrite, à part les cantos restés inachevés, qui valait la peine d'être lue.
De quoi est-ce que ça parle ? Demandai-je sans lever les yeux du roman de Delmore de Lans que j'étais en train de parcourir. Nous avions chacun une pomme à la main que nous croquions à belles dents tout en lisant et en parlant. Abétic était retourné en bas par l'escalier en spirale.
Des derniers jours de l'ancienne terre,
me dit-elle.
Et plus exactement de l'enfance dorée de Martin dans sa grande propriété familiale de la réserve d'Amérique du Nord.
Je posai mon livre. Qu'est-il arrivé à l'ancienne terre, d'après toi ? Elle cessa momentanément de croquer sa pomme.
À mon époque, tout le monde croyait que le trou noir de la grande erreur de 08 l'avait englouti, qu'elle avait disparu à jamais. Capote !
Je hochai la tête, la bouche pleine. Beaucoup de gens croient encore cela, dis-je après avoir dégluti. Mais les cantos du vieux poète insistent pour dire que c'est le technocentre qui a kidnappé l'ancienne terre pour l'envoyer ailleurs.
Dans la main d'Hercule ou le nuage de Magellan,
précisa la fillette qui mordit de nouveau dans sa pomme.
Ma mère a découvert cela pendant qu'elle enquêtait avec mon père sur son assassinat.
Je me penchai en avant. Ça ne t'embête pas de parler de ton père ? Elle eut un sourire.
Pourquoi est-ce que ça me dérangerait ? Je suppose que je suis une bâtarde ? La fille d'une lusienne et d'un clone cybride, mais ça ne m'a jamais empêché de dormir.
Tu n'as pas grand-chose de lusien. Lui dis-je. Les habitants de ce monde à gravité élevée étaient invariablement petits, trapus et très forts. La plupart avaient le teint pâle et les cheveux bruns. Aîné était de la même taille qu'un enfant de son âge sur un monde à 1G de gravité. Ses cheveux bruns étaient parsemés de mèches claires et elle était plutôt mince. Seuls ses yeux d'un brun lumineux me rappelaient la description de Brown Lamia dans les Cantos. Elle éclata d'un rire agréable à entendre.
« Je ressemble à mon père, » me dit-elle. John Keats était petit, blond et osseux.
J'hésitai une fraction de seconde avant de murmurer. « Tu m'as dit que tu avais parlé à ton père. » Elle me regarda du coin de l'œil.
« C'est vrai. Et comme tu le sais, le centre a tué son corps avant ma naissance. » Mais tu sais peut-être aussi que ma mère a porté sa personnalité pendant des mois dans une boucle de chrone incrustée derrière l'oreille.
Je hochai la tête. C'était dans les Cantos. Elle eut un haussement d'épaule.
Je me souviens de lui avoir parlé.
Mais tu n'étais même pas née,
je sais. Quel genre de conversation peuvent avoir la personnalité d'un poète et un fœtus ? Mais nous avons quand même parlé, je t'assure. Sa personnalité était encore connectée au technocentre. Il m'a montré... C'est compliqué à expliquer, Roll. Crois-moi.
Je te crois, murmurai-je en jetant un regard circulaire à la bibliothèque. Savais-tu que, d'après les Cantos, lorsque la personnalité de ton père a quitté la boucle de Schrön, elle a résidé quelque temps dans l'IA du vaisseau où nous sommes ?
Oui,
fit Aîné avec un sourire.
Hier soir, avant de m'endormir, j'ai passé environ une heure à bavarder avec le vaisseau. C'est vrai que mon père a résidé là. Sa personnalité a coexisté avec le cerveau du vaisseau quand le consul est retourné voir ce qui s'est passé au Reds après la chute. Mais elle n'y est plus du tout à présent, et le vaisseau a presque tout oublié de cette coexistence. Il est incapable de dire ce qui est arrivé à mon père, s'il est parti après la mort du consul ou bien... J'ignore si sa personnalité existe toujours ou non.
« Quoi qu'il en soit, murmurai-je en choisissant mes mots avec toute la diplomatie possible, le centre n'existe plus aujourd'hui. Et il me paraît difficile de concevoir qu'une personnalité hybride ait pu survivre. »«
Qui a dit que le centre n'existait plus ?»
J'avoue que je fus choqué par cette déclaration. Le dernier geste de Mayna Gladstone et de l'hégémonie fut de détruire toutes les liaisons d'Istrance, les infosphères, les mégatrans et la totalité de la dimension dans laquelle le centre existait, articulai-je finalement. Même les Cantos rapportent ces faits. L'enfant souriait toujours.
C'est vrai qu'ils ont fait sauter tous les distances basées dans l'espace et que les autres ont immédiatement cessé de fonctionner. Les infosphères avaient également disparu à mon époque. Mais qui a dit que le centre était mort ? C'est C'est comme si tu concluais, après avoir balayé quelques toiles d'araignée, que l'araignée est morte.
Je la regardais par-dessus mon épaule. Tu penses que le technocentre existe encore? Que toutes ces IA sont encore en train de conspirer contre nous?
Je ne suis au courant d'aucune conspiration. Mais je sais que le centre existe.
Comment le sais-tu? Elle leva un doigt menu.
Primo, la personnalité hybride de mon père existait encore après la chute, pas vrai? À la base de cette personnalité, il y avait une IA du centre spécialement façonnée. Ce qui prouve bien que le centre existait toujours, quelque part.
Je réfléchis quelques instants à ce qu'elle venait de dire. Comme je l'ai déjà indiqué, les hybrides, au même titre que les androïdes, constituaient essentiellement pour moi une espèce mythique. Nous aurions pu aussi bien discuter des caractéristiques physiques des lutins ou des farfadets.
« Secondo !»
dit-elle en levant un deuxième doigt menu à côté du premier.
« J'ai communiqué moi-même avec le centre. »
Je battis plusieurs fois des paupières. « Avant ta naissance ?»«
Oui. Et quand je vivais avec maman à Jacktown. Et aussi quand maman est morte. »
Elle prit ses livres et se leva.
« La dernière fois, c'était ce matin. »
ajouta-t-elle. Je demeurai bouche bée.
« J'ai une faim de loup, Roll !»
me dit-elle du haut de l'escalier.
« Tu veux pas qu'on descende voir ce que la vieille Cambuse est capable de nous concocter pour midi ?»
Nous nous installâmes progressivement dans une routine ponctuée, grosso modo, par les périodes nocturnes et diurnes d'Hyperion. Je commençais à comprendre pourquoi l'hégémonie avait tellement tenu à maintenir partout, à l'époque du Retz, les rythmes de l'ancienne Terre basés sur une période de 24 heures. J'avais lu quelque part que près de 90% des mondes terraformés ou de type terrestre, qui faisaient partie du Retz, avaient adopté des journées qui correspondaient à 2 ou 3 heures près au modèle de l'ancienne Terre. Aîné aimait beaucoup déployer le balcon et jouer du Steinway sous le ciel de l'espace Hawking. Je la rejoignais souvent pour l'écouter durant quelques minutes, mais je préférais de loin l'intérieur confiné du vaisseau. Personne ne se plaignait des effets de l'environnement C+, mais nous les ressentions sous forme de variations soudaines dans notre sens de l'équilibre ou nos émotions, dans l'impression constante que nous avions d'être épiés et dans les rêves très étranges que nous faisions. De terribles cauchemars me réveillaient le cœur battant, la bouche sèche, dans des draps trempés de sueur. Mais je ne me rappelais jamais en quoi ils consistaient exactement. J'aurais voulu demander aux autres quels rêves ils faisaient, mais Abétique ne parlait jamais des siens, j'ignorais même si les androïdes étaient capables de rêver, et Aînée, tout en reconnaissant qu'elle faisait des songes étranges et qu'elle s'en souvenait, ne voulait jamais en discuter. Le deuxième jour, alors que nous étions ensemble dans la bibliothèque, Aînée nous suggéra de faire l'expérience du voyage dans l'espace. Lorsque je lui demandais comment nous pouvions faire cette expérience plus qu'en ce moment, j'avais surtout à l'esprit les fractales de Hawking, elle se mit à rire puis demanda au vaisseau d'annuler le champ de confinement interne. Aussitôt, nous nous retrouvâmes dépourvus de poids. Enfant, j'avais souvent rêvé que je flottais sous gravité zéro. Jeune soldat, dans la mer du Sud à forte concentration saline, je fermais les yeux en me laissant flotter, décontracté, et je me demandais si c'était la même impression que l'on ressentait dans l'ancien temps lorsque l'on voyageait dans l'espace. Je peux vous dire aujourd'hui que les deux choses sont sans aucun rapport. La gravité zéro, particulièrement celle que nous fit subir le vaisseau sur la demande d'Aîné, est quelque chose d'absolument terrifiant. C'est l'équivalent tout simplement de la sensation de chute libre. C'est du moins ce que l'on ressent au début. Je m'agrippais à mon fauteuil, mais le fauteuil tombait aussi. C'était exactement comme si j'étais assis depuis 2 jours dans l'une des énormes cabines de téléphérique de la chaîne bridée et que le câble s'était soudain cassé. Mon oreille moyenne protestait, essayant de trouver une ligne d'horizon fiable, mais aucune ne l'était. Abétique surgit comme un bouchon de l'endroit où il se trouvait en bas et demanda d'une voix calme. « Il y a un problème ?»«
Non !» fit Aînée en riant. « Nous avons seulement décidé de faire l'expérience du vol spatial pendant quelque temps. »
L'androïde acquiesça sans rien dire, puis plongea la tête la première dans le trou de l'escalier pour retourner à ses occupations. Aînée le suivit jusqu'à l'orée du trou, puis se propulsa dans l'ouverture.
« Tu vois ?» me dit-elle. « Cet escalier, quand le vaisseau est sous gravité zéro, se transforme en puits central, exactement comme dans les anciens vaisseaux de spin. »«
Tu es sûr qu'il n'y a pas de danger ?» demandai-je en lâchant le dossier de mon fauteuil pour m'agripper aussitôt à une étagère.
Je remarquai alors, pour la première fois, les élastiques qui maintenaient les volumes en place. Tout ce qui n'était pas attaché, le livre que j'avais posé sur la table, un sweater que j'avais laissé sur le dossier d'un autre siège, les quartiers de l'orange que j'étais en train de manger, étaient en train de flotter un peu partout.
« Aucun danger, rassure-toi, » me dit-elle. « Ça fait un peu désordre, c'est tout. La prochaine fois, on s'assurera que tout est bien arrimé avant d'annuler le chant. »
« Mais ce chant, il ne joue pas un rôle important ?»
Elle flottait la tête en bas de mon point de vue. Mon oreille interne appréciait cela encore moins que le reste de l'expérience.
« Le chant nous évite d'être écrasés et ballottés quand nous nous déplaçons dans l'espace normal. »
m'expliqua-t-elle en se tractant, une main sur la rampe, jusqu'au centre du trou béant sur 20 mètres de dénivelé.
« Mais dans l'espace, c'est plus, »
ajouta-t-elle.
« Nous pouvons ralentir ou accélérer le processus en sorte de... Hop !»
Elle avait saisi d'une main la colonne lisse qui traversait le vaisseau dans son axe longitudinal, au centre de la cage d'escalier, et s'était catapultée dans le puits, la tête la première.
« Seigneur, » murmurai-je.
Lâchant mon étagère, je me propulsai contre la paroi opposée et la suivis dans le puits. Nous passâmes l'heure suivante à nous amuser à tous les jeux sous gravité zéro. À la cachette G0, on pouvait se cacher dans les endroits les plus surprenants quand on n'était pas esclave de la pesanteur, à chat-perché G0, au football G0 avec pour ballon un casque spatial en plastique que nous avions trouvé dans un compartiment de rangement, et même à la lutte G0, beaucoup plus difficile que je ne l'aurais imaginé. Ma première tentative de saisir l'enfant nous envoya rebondir tous les deux sur la longueur ou la hauteur entière du pont de fugue. À la fin, quand nous fûmes épuisés et en sueur, je m'aperçus que les gouttes de transpiration restaient en suspens dans l'air quand nous bougions, ou que le moindre souffle des ventilateurs les faisait bouger. Aîné demanda de nouveau au vaisseau d'ouvrir le balcon. Je poussai un glapissement d'effroi quand le système de bord s'exécuta, mais il me rappela que le champ extérieur était toujours en place et nous nous laissâmes flotter jusqu'au Stenway, rivé au plancher, puis jusqu'à la balustrade et au-delà, dans la zone frontière entre la coque et le champ de confinement. Nous pûmes aller jusqu'à 10 mètres du vaisseau avant de nous retourner vers lui, environné de fractales éclatantes qui formaient un somptueux feu d'artifice dans l'espace Hawking, tour à tour dilaté et contracté autour de nous, au rythme de plusieurs milliards de fois par seconde. Finalement, nous rentrâmes en nageant et en nous propulsant tant bien que mal, ce qui, constatai-je, n'est pas particulièrement facile en l'absence de point d'appui, puis avertîmes Abétique par l'interphone de bien s'ancrer à une paroi, tandis que nous demandions au vaisseau de rétablir une gravité normale de 1G. Aîné et moi nous éclatâmes de rire, lorsque sweater, sandwich, fauteuil, livre et bulle d'eau d'un verre resté plein descendirent en pluie pour s'écraser sur la moquette. Ce jour-là, ou plutôt cette nuit-là, car le vaisseau avait diminué l'éclairage pour la nouvelle période nocturne, lorsque je descendis en chaussettes par l'escalier en spirale jusqu'à l'étage de la fosse aux loups pour me préparer un sandwich de minuit, j'entendis une série de petits bruits provenant du pont de fugue au-dessous de moi. « Aîné ?» appelai-je tout doucement. Je ne reçus pas de réponse. Je m'avançai jusqu'à l'ouverture de l'escalier et me penchai pour essayer d'apercevoir quelque chose, en souriant au souvenir de nos acrobaties de l'après-midi. « Aîné ?» Toujours pas de réponse, mais les petits bruits continuaient. Regrettant de n'avoir pas de lampe sous la main, je descendis les marches de métal. Une faible lueur émanait de l'un des moniteurs de fugue fixés au-dessus des couchettes. Les petits bruits que j'avais entendus venaient du compartiment d'Aîné. Elle me tournait le dos, la couverture remontée jusqu'à ses épaules, mais je voyais dépasser le col d'une vieille chemise du consul qu'elle s'était appropriée pour s'en faire un vêtement de nuit. Je m'avançais encore. Mes chaussettes ne faisaient aucun bruit sur le plancher. Je me mis à genoux devant la couchette. « Aîné ?
la fillette était en train de pleurer, et elle s'efforçait d'étouffer ses sanglots. Je lui touchai l'épaule. Elle finit par se retourner. Malgré le très faible éclairage fourni par l'écran, je vis qu'elle devait pleurer depuis un bon moment. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Ses joues ruisselaient de larmes. « Qu'est-ce qu'il y a, ma petite fille ?» demandai-je tout bas. Nous étions deux étages au-dessus de l'endroit où Abétique dormait dans son hamac dans la chambre des machines, mais la descente d'escalier était ouverte. Durant un bon moment, Aînée ne me répondit pas. Finalement, cependant, ses sanglots se calmèrent.
« Excuse-moi, » me dit-elle alors.
« Ce n'est rien. Tu veux me dire ce qui ne va pas ?
Donne-moi un mouchoir d'abord. »
Je fouillais dans les poches de la vieille robe de chambre que le consul avait laissée. Il n'y avait pas de mouchoir, mais j'avais mangé un gâteau là-haut et j'avais fourré la serviette dans ma poche. Je la lui tendis.
« Merci, »
dit-elle. Elle se moucha.
« Je suis bien contente que nous ne soyons plus sous chez zéro, »
me dit-elle à travers le tissu.
« Il y aurait de la morve en train de flotter partout. »
Je souris et lui pris les épaules à deux mains. « Qu'est-ce qu'il y a, aîné ?» Elle laissa entendre un petit bruit que l'on pouvait interpréter comme un rire.
« Rien ne va, »
me dit-elle.
« J'ai une frousse terrible. Tout ce que je peux voir de l'avenir me terrifie. J'ignore comment nous allons échapper aux types de la Pax qui vont nous attendre dans quelques jours. Je voudrais rentrer à la maison, mais je ne peux pas retourner en arrière. Et tous les gens que je connais, à l'exception de l'oncle Martin, ont disparu à jamais. Et celle qui me manque le plus, c'est ma mère. »
J'exerçais une pression affectueuse sur son épaule. Brown Lamia, sa mère, appartenait à la légende. Elle avait vécu et était morte deux longs siècles et demi plus tôt. Ses os étaient déjà en partie retournés à la poussière, où qu'il soit. Mais pour cet enfant, elle n'était morte que depuis 15 jours. « Je suis navré, » murmurai-je en lui serrant de nouveau l'épaule, sous le pli de la vieille chemise du consul. « Et ça va aller. Tu verras. » Elle hocha doucement la tête et me prit la main. La sienne était encore moite. Je m'étonnais de voir à quel point sa paume et ses doigts étaient minuscules dans ma grosse patte. « Veux-tu monter avec moi dans la cambuse, prendre un verre de lait et manger un morceau de gâteau à la racine de chalme ?» chuchotai-je. « Il est délicieux. » Elle secoua la tête.
« Je crois que je vais dormir maintenant. Merci, Roll. »
Elle serra très fort ma main entre les siennes avant de la lâcher. En 7 secondes, je fus frappé par une grande vérité. Celle qui enseigne, la nouvelle Messie, ou quoi que ce soit d'autre que la fille de Brown Lamia allait se révéler être, était aussi une enfant capable d'avoir le fou rire en faisant des galipettes sous gravité zéro, et qui pleurait la nuit. Je remontai l'escalier en m'arrêtant pour la regarder, avant de passer la tête dans le trou du pont supérieur. Elle était de nouveau emmitouflée dans sa couverture, la tête tournée de l'autre côté, et sa chevelure captait un faible reflet de la console au-dessus de son compartiment.
« Bonne nuit, aînée, »
murmurai-je, sachant qu'elle ne m'entendrait pas.
« Tout va aller bien. Tu verras. »
Chapitre 22. Le sergent Grégorius et ses deux hommes de troupe attendent devant la sortie ouverte du sas d'abordage du Raphaël, tandis que le vaisseau Archange se rapproche de la cible non identifiée qui vient d'émerger de sa translation C+. Leurs armures de combat sont encombrantes et les trois hommes, avec leurs fusils sans recul à la main et leurs armes rayonnantes en bandoulière, occupent tout le sas. Le soleil de Parvati fait briller leurs visières dorées, tandis qu'ils se penchent à l'extérieur.
« Objectif verrouillé !»
annonce la voix du père capitaine de Soya à leurs écouteurs. « Distance 100 mètres, en diminution. » L'astronef en forme de cigare avec des ailerons remplit maintenant leur champ de vision. Les deux vaisseaux continuent de se rapprocher. Leur champ de confinement défensif entre en contact. Ils deviennent flous et lancent des éclairs RCC d'énergie dissipés plus vite que la vision humaine n'est capable de les percevoir. La visière de Grégorius s'opacifie, s'éclaircit, se réopacifie automatiquement au rythme des éclairs de la bataille.
« Bon, vous entrez en deçà du rayon d'action de leurs armes tactiques !»
leur dit De Soya de son perchoir au centre de commandement de combat.
« Allez-y !»
Grégorius lève le bras pour donner le signal à ses hommes, et ils se propulsent exactement au même instant que lui. Les tuyères de poussée du paquetage de leur combinaison, fines comme des aiguilles, crachent de minuscules flammes bleues pour corriger leur trajectoire.
« Disrupteur de champ, en action !» crie De Soya.
Les champs de confinement qui s'affrontent s'annulent durant quelques secondes à peine, mais c'est suffisant. Grégorius, Ki et Rettig ont pu passer dans le cocon défensif du vaisseau adverse.
« Ki !»
fait Grégorius sur faisceau étroit. La plus petite des deux silhouettes réoriente ses tuyères et se dirige vers la proue du vaisseau en décélération.
« Rettig !»
La deuxième armure de combat se propulse vers le tiers inférieur du vaisseau. Grégorius, pour sa part, attend la dernière seconde pour couper la poussée en avant, opérer un rétablissement et remettre la poussée à fond. Ses semelles épaisses touchent la coque avec un choc presque imperceptible. Il active les fixations mag de ses brodequins, s'assure qu'elles fonctionnent, équilibre sa position et s'accroupit contre la coque, une seule semelle en contact.
« J'y suis !»
fait la voix du caporal Ki sur faisceau étroit.
« En position !»
fait Rettig une seconde plus tard. Le sergent Grégorius déroule de sa taille la longueur de collier d'abordage, la fixe à la coque, active le verrouillage et reste à genoux au milieu. Il est au centre d'un cerceau d'un peu plus d'1,50 m de diamètre.
« Compte à rebours à partir de 3 », dit-il dans son micro. « 3, 2, 1, déploiement !»
Il enfonce une touche de sa commande de poignée et bat des paupières tandis qu'un dais ultra fin de polymère moléculaire monte du cerceau, se referme au-dessus de sa tête et continue de grossir autour de lui. 10 secondes plus tard, il est à l'intérieur d'un cylindre transparent d'une hauteur de 20 mètres. Vu de l'extérieur, sa silhouette accroupie en armure de combat semble être prisonnière d'une capote géante en excroissance sur la coque.
« Prêt !»
annonce Ki presque en même temps que Rettig.
« Phase suivante !»
ordonne Grégorius en plaquant une charge contre la coque et en posant un doigt de son gantelet sur la commande de poignée.
« À partir de 5 !»
Le vaisseau tourne lentement sous eux à présent. Il met ses tuyères latérales et ses réacteurs en action presque au hasard. Mais le Raphaël l'a pris dans l'étau de mort de son champ de confinement et les trois hommes collés à la coque tiennent bon.
5, 4, 3, 2, 1, c'est parti!
L'explosion, naturellement, ne produit aucun bruit, mais elle se fait également sans recul ni éclair. Une section de coque circulaire de 120 cm de diamètre s'effondre. Grégorius ne voit que la forme diaphane du sac polymère de Ki se détachant de la courbe de la coque. Il est en train de se gonfler et reflète la lumière solaire. Son propre sac se gonfle aussi comme un ballon géant, tandis que l'atmosphère s'échappe de l'intérieur du vaisseau par la brèche et remplit l'espace autour de lui. Ses capteurs externes lui transmettent un sifflement d'ouragan pendant 5 secondes, puis plus rien. La bulle qui l'entoure, d'après les instruments de son casque, contient maintenant un mélange d'oxygène et d'azote et s'est rempli de poussière et de détritus divers attirés lors du bref instant de différence de pression.
« On entre !»« Maintenant !»
crie Grégorius. Il braque son fusil à plasma sans recul et s'élance vers l'intérieur. Il n'y a pas de gravité. C'est une surprise pour le sergent, il était prêt à se laisser rouler sur le pont pour se mettre à l'abri. Mais il ne lui faut pas plus de 2 secondes pour s'adapter. Il s'imprime un mouvement circulaire, scrutant les lieux. Il s'agit d'une espèce de salon. Il voit les coussins, une sorte d'écran vidéo ancien, des rayonnages avec de vrais livres. Quelqu'un apparaît dans son champ de vision, débouchant du puits central.
« Halt !»
s'écrie-t-il en utilisant à la fois la bande radio générale et le haut-parleur de son casque. Mais la silhouette, ce n'est guère plus qu'une silhouette indistincte, ne s'arrête pas. Et l'homme tient quelque chose à la main. Grégorius fait feu à partir de la hanche. Le projectile de plasma perce un trou de 10 cm dans le corps de l'homme. Le sang et les viscères explosent. La silhouette s'affaisse. Quelques globules aspergent la visière et l'armure du sergent. L'objet tombe de la main du mort et Grégorius y jette un coup d'œil tout en se propulsant vers le puits d'escalier. C'est un livre.
« Merde !» fait-il entre ses dents.
Il a tué un homme désarmé. Il va perdre des points pour son avancement à cause de ça.
Je suis à l'intérieur, niveau supérieur. Il n'y a personne ici, annonce Key à la radio. Je descends.
Chambre des machines, fait à son tour Rettig. Il y avait juste un homme, il a voulu s'enfuir et j'ai dû le carboniser. Pas de trace de l'enfant.
J'arrive.
Elle doit être sur le pont du milieu ou près du sas,
fait le sergent à son micro.
Méfiez-vous.
Les lumières s'éteignent. La lampe de casque de Gregorius et le pinceau lumineux de son fusil à plasma s'allument automatiquement. Leurs rayons sont visibles dans l'atmosphère saturée de poussière, de globules de sang et de débris flottants. Ils s'immobilisent au bord du puits d'escalier. Quelqu'un ou quelque chose est en train de monter vers lui. Il penche son casque de manière à l'éclairer, mais le rayon du fusil à plasma illumine la silhouette le premier. Ce n'est pas la fille. Gregorius a une impression générale confuse de forme massive, hérissée de piquants et de barbelés, avec des bras surnuméraires et des yeux rouges comme des escarboucles. Il faut qu'il décide en une seconde ou moins. S'il tire des projectiles au plasma dans le puits d'escalier, il court le risque de toucher l'enfant. S'il ne fait rien, il meurt. Des griffes effilées comme des rasoirs se tendent vers lui au moment même où il hésite. Gregorius a fixé son bâton de la mort au fusil à plasma avant l'abordage. Il se repousse d'un coup de talon, trouve un angle de tir et fait feu. La forme hérissée flotte devant lui, ses quatre bras complètement inertes, ses yeux rouges éteints. Ce foutu monstre est vulnérable au bâton de la mort, se dit Gregorius. Ce qui signifie qu'il a des synapses. Il aperçoit du coin de l'œil une silhouette au-dessus de lui, fait pivoter son fusil, identifie qui. Les deux hommes se propulsent la tête la première dans le puits. Ennuyeux si quelqu'un remettait la gravité en un moment pareil, se dit-il. À noter pour une autre fois.
Je l'ai !
Leur crie Rettig.
Elle se cachait dans l'un des compartiments de fugue !
Gregorius et Key se laissent flotter jusqu'au pont de fugue, où une silhouette massive en armure de combat maintient l'enfant. Le sergent remarque ses cheveux bruns parsemés de mèches blondes, ses yeux noirs et ses petits poings qui tambourinent vainement contre le torse de Rettig.
« C'est bien elle », dit-il en passant sur liaison étroite avec leur vaisseau. « Opération de nettoyage achevée. Nous détenons la fille.
Deux défenseurs et la créature éliminée cette fois-ci. »«
Bien reçu »,
fait la voix du père capitaine. « 2 minutes 15 secondes. La performance est impressionnante.
Vous pouvez revenir. »
Gregorius hoche la tête, lance un dernier regard à l'enfant captive qui ne se débat plus et règle les commandes de son armure. Il cligne des yeux et voit les deux autres couchés à côté de lui, leur combinaison reliée par câble au système tactique RV. De Soya a désactivé les champs internes du Raphaël pour mieux entretenir l'illusion. Gregorius ôte son casque, voit ses hommes limités, le visage en sueur, et commence à aider Key à retirer sa lourde armure. Tous les trois rejoignent De Soya dans le carré du Raphaël. Ils auraient pu aussi bien tenir leur réunion dans la steam sim de l'espace tactique, mais ils préfèrent la réalité physique pour y tenir conseil.
Cela n'a pas été bien dur, fait De Soya tandis qu'ils prennent place autour de la petite table.
Trop facile, déclare le sergent. Je ne crois pas qu'on puisse tuer ce Gritch avec un bâton de la mort. Et j'ai merdé avec ce type sur le pont de navigation. Il ne tenait qu'un livre à la main.
De Soya hoche lentement la tête.
Vous avez agi correctement. Mieux valait tirer que prendre un risque.
Deux hommes non armés,
murmure le caporal Key.
Je n'y crois pas trop. C'est aussi peu réaliste que la douzaine de gardes armés à la troisième séance. On devrait affronter plus d'extro, avec un niveau de létalité au moins égal à celui des marines.
Je ne sais pas, fait Rettig en secouant la tête. Il se tourne vers lui et attend qu'il parle.
Chaque fois, nous capturons la fille sans qu'il lui arrive aucun mal, dit-il.
Pas dans la cinquième sim, fait remarquer Key.
Elle, je sais, lance Rettig. Nous la tuons accidentellement. Mais le vaisseau entier était piégé et menacé de sauter. Ça m'étonnerait que ça se produise dans la réalité. Vous avez déjà entendu parler d'un bâtiment spatial de 100 millions de marques équipé d'un bouton d'autodestruction ? C'est dément.
Les trois autres s'entre-regardent, puis haussent les épaules.
C'est vrai que l'idée est assez stupide, reconnaît le père capitaine De Soya.
Mais j'ai programmé le réseau tactique avec une très large variété de paramètres qui, je sais,
interrompt le lancier Etig, dont le visage fin est aussi acéré et menaçant qu'une lame de poignard.
Ce que je voulais dire, c'est que si nous en arrivons à utiliser nos armes individuelles à l'intérieur du vaisseau, les chances de carboniser la petite fille seront bien plus grandes que ne le suggère Cécime. Rien d'autre.
C'est la plus longue tirade que les trois autres aient jamais entendue dans la bouche de Rettig depuis qu'ils vivent et s'entraînent à bord du petit vaisseau.
« Vous avez raison, »
lui dit De Soya. « À la prochaine sim, j'augmenterai le coefficient de danger pour l'enfant. » Grégorius secoue la tête.
« Capitaine, je suggère de laisser tomber les sims et de reprendre les répétitions physiques. Vous comprenez ?»
Il consulte son chrono de poignet, le souvenir de la lourde armure de combat ralentit ses mouvements.
« Il ne nous reste que 8 heures avant de passer réellement à l'action, » conclut-il.
« C'est vrai, » fait le caporal Key. « Je préfère m'entraîner à l'extérieur, même si nous ne pouvons pas simuler la présence de l'autre vaisseau. »
Rettig grogne pour signifier son assentiment.
« C'est d'accord, » déclare De Soya. « Mais d'abord, mangeons. Double ration pour tout le monde. »
L'entraînement était peut-être tactique, mais vous avez perdu chacun 10 kilos cette semaine. Le sergent Grégorius se penche par-dessus la table.
Pourrions-nous voir le tracé, capitaine ?
De Soya fait apparaître sur le moniteur la longue trajectoire ellipsoïde du Raphaël et le point d'émergence du vaisseau fugitif qui clignote en rouge juste au bout de la courbe.
Encore une répétition en espace réel, leur dit-il. Et tout le monde ira dormir au moins 2 heures avant de procéder à une vérification générale du matériel. Soyez décontractés. Tout se passera bien.
Il consulte sa montre de poignet, bien que le moniteur affiche en permanence l'heure de bord et l'heure d'interception.
Sauf accident ou fait imprévisible, dit-il, la fille devrait être ici sous bonne garde dans 7 heures et 40 minutes. Nous devrons alors être prêts à nous translater immédiatement sur Passem.
« Capitaine, »
fait le sergent Grégorius.
« Oui, sergent. »«
Sauf votre respect, capitaine, il n'existe pas de moyen dans ce foutu univers du bon Dieu d'empêcher un accident ou un fait imprévisible de se produire. »
Chapitre 23. « Alors, » demandai-je, « quel est ton plan ?» Aîné leva les yeux du livre qu'elle était en train de lire.
« Qui t'a dit que j'avais un plan ?»
Je m'assis à califourchon sur une chaise. « Dans moins d'une heure, nous allons faire irruption dans l'espace de Parvati, » déclarai-je. « Il y a 8 jours, tu m'as dit qu'il nous fallait un plan pour le cas où il nous attendrait à la sortie. Alors ? Quel est le plan ?» Elle referma son livre avec un soupir. Abétik venait de monter dans la bibliothèque par l'escalier et se joignait à nous. Il s'assit même devant la table, ce qui était très inhabituel de sa part.
« Je ne suis pas certaine d'en avoir un, »
me dit enfin Aîné. Je redoutais quelque chose de ce genre. Nous avions passé agréablement la semaine à lire, discuter et jouer. Aîné était excellente aux échecs, bonne au go et redoutable au poker. Les jours avaient passé sans incident. J'essayais régulièrement de lui tirer les vers du nez. Où comptait-elle aller ? Pourquoi avoir choisi le vecteur Renaissance ? Le contact avec les extros faisait-il partie de ses objectifs principaux ? Elle me répondait poliment, mais de manière toujours évasive. Par contre, elle avait l'art de me faire parler. Je n'avais pas fréquenté beaucoup d'enfants dans ma vie, même quand j'en étais un moi-même. Il y avait d'autres enfants dans notre caravane, mais j'étais rarement en leur compagnie, car Grande Âme, pour moi, était infiniment plus intéressante. Mais les enfants et adolescents à qui j'avais eu affaire au fil des années n'avaient jamais manifesté une telle curiosité ni une telle aptitude à écouter. Aîné me fit décrire mon existence de jeune berger. Elle manifesta un intérêt spécial pour mes années d'apprentissage de l'architecture paysagiste et me posa 1000 autres questions sur la période que j'avais passée à naviguer en barge et à guider les chasseurs dans les marais. En fait, seule la période où j'étais soldat sembla ne l'intéresser que médiocrement. Elle voulut savoir aussi beaucoup de choses sur ma chienne, bien que le seul fait de parler d'Izzy, de la manière dont je l'avais élevée quand elle était toute petite, puis dressée pour le gibier à plumes, et enfin des circonstances dans lesquelles elle était morte, eut le don de me bouleverser passablement. je remarquai qu'elle arrivait même à faire parler Abétik de ses nombreux siècles de servitude, et là je me joignais souvent à elle pour écouter patiemment l'androïde, qui avait vu et connu des choses étonnantes sur différents mondes, depuis la colonisation d'Hyperion avec le roi Billy le Triste, jusqu'au pèlerinage final que le vieux poète avait immortalisé, en passant par les premiers carnages du Gritch à travers le continent des Kous. Même les décennies qu'il avait passées en compagnie de Martin Silenus se révélèrent fascinantes à entendre décrire. La petite fille en disait très peu sur elle-même. Le quatrième soir, après notre départ d'Hyperion, elle avoua cependant qu'elle était entrée dans le Sphinx et dans son avenir, non seulement pour échapper aux troupes de la Pax, mais surtout pour accomplir son propre destin. « Ton destin de Messie ?» demandai-je, intrigué. Elle se mit à rire.
« Non !»
me dit-elle.
« D'architecte !»
Je fus surpris. Ni les Cantos, ni le vieux poète en personne n'avaient jamais fait mention d'une carrière d'architecte chez celle qui enseigne. Elle haussa les épaules.
« C'est un projet. Dans mon rêve, celui qui est capable de m'éduquer vit à cette époque. Alors je suis venu. »
« Capable de t'enseigner ? Mais je croyais que celle qui enseigne, c'était toi. »
Elle se laissa aller en arrière au creux des coussins de la fosse Holo en reposant ses jambes sur l'un des dossiers.
« Sois raisonnable, Roll. Comment pourrais-je enseigner quoi que ce soit à quiconque ? Je n'ai que 12 années standard. » Et je n'avais jamais quitté Hyperion avant ce voyage. Je n'avais même jamais quitté le continent d'Écus jusqu'à la semaine dernière. Qu'est-ce que je pourrais enseigner ?
Je n'avais pas de réponse à cela.
Je veux être architecte,
reprit-elle.
Et j'ai idée que l'architecte qui peut m'apprendre le métier est quelque part là-bas.
Elle agita les doigts en direction de l'extérieur, mais je compris qu'elle voulait parler de l'ancien Retz hégémonien vers lequel nous nous dirigions.
« Comment s'appelle-t-il » demandai-je. « Ou bien elle ?»«
C'est il. Et j'ignore son nom. »«
Quel monde habite-t-il ? » ?»«
Je l'ignore aussi. »«
Tu es sûr que tu ne te trompes pas de siècle ?» demandai-je en essayant de ne pas laisser passer dans ma voix l'irritation que je ressentais.
« Je ne sais pas. Je pense que c'est bien ce siècle. »
Elle s'était rarement montrée susceptible durant les quelques jours que je venais de passer à bord avec elle. Mais sa voix était devenue dangereusement proche de cet état d'humeur.
Et tu as simplement rêvé de cette personne.
Elle se redressa au milieu des coussins.
Pas simplement rêvé. Mes songes sont très importants pour moi. Ils sont plus que de simples rêves. Tu comprendras.
Je m'efforçais de ne pas soupirer tout haut.
Que se passera-t-il quand tu deviendras architecte ?
Elle se mordia un ongle. C'était une sale habitude que je m'étais promis de lui faire passer.
« Que veux-tu dire ? »
demanda-t-elle. « Le vieux poète attend de grandes choses de toi, que tu nous serves de messie, entre autres. Quand est-ce que ça se produira ?» Elle se leva pour redescendre dans son compartiment de fugue.
« Je ne voudrais pas te vexer, Roll, mais tu ne pourrais pas me foutre un peu la paix ?»
Elle s'était excusée un peu plus tard de m'avoir parlé ainsi. Mais tandis que nous étions assis autour de la table, à une heure de la translation dans un système solaire inconnu, j'étais curieux de savoir si ma dernière question allait me valoir le même genre de réponse. Ce ne fut pas le cas. Elle commença à se ronger l'ongle, se reprit et déclara.
« Tu as raison. D'accord. Il faut qu'on ait un plan. »
Elle se tourna vers Abétik.
« Vous en avez un ?»
L'androïde secoua la tête. Maître Silenus et moi, nous en avons souvent discuté à Chénée. Mais notre conclusion est que si la Pax arrive avant nous à destination, tout est perdu. Cela semble très peu probable cependant. Le vaisseau torche lancé à notre poursuite ne peut pas traverser l'espace Hawking plus vite que nous.
« Je me demande, » murmurai-je. Certains chasseurs que j'ai guidés ces dernières années... discutaient parfois de rumeurs selon lesquelles la Pax, ou l'Église, posséderait un nouveau type de vaisseau ultra-rapide.
Abétik hocha la tête.
« Nous sommes au courant de ces rumeurs, Achandimion,
Mais la logique suggère que si la Pax avait réussi à mettre au point un tel mode de propulsion que l'hégémonie n'a jamais possédé, elle en aurait équipé tous ses vaisseaux de guerre ainsi que ceux de la Mercantilus. Aîné donna un coup sur la table.
« Qu'importe la manière dont ils nous devanceront ! J'ai rêvé qu'ils le feraient. J'ai envisagé plusieurs plans, mais... »
« Et le Gritch ? » demandai-je.
« Quoi, le Gritch ? »
fit-elle en me jetant un regard de côté. « Eh bien, il a joué le rôle d'un Deus Ex Machina bien commode pour nous sur Hyperion. Je m'étais dit que... »«
Bon Dieu, Roll ! Je n'ai jamais demandé à cette créature de massacrer tous ces gens sur Hyperion. J'aurais préféré qu'il en soit autrement, je t'assure.
Je sais, je sais. » Je lui touchai la manche pour la calmer. Abétique lui avait taillé quelques vêtements dans les chemises du consul, mais sa garde-robe était encore rudimentaire. Je savais qu'elle avait été bouleversée par le carnage qui avait précédé notre fuite. Elle devait reconnaître plus tard que c'était l'une des raisons pour lesquelles elle avait pleuré le deuxième soir.
« Excuse-moi, lui dis-je, sincèrement désolé. Je ne voulais pas paraître désinvolte à propos de cette créature. Je me disais seulement que si quelqu'un cherchait à nous arrêter, peut-être que... »«
Non !» fit Aîné.
J'ai rêvé que quelqu'un cherche à nous empêcher d'arriver sur le vecteur Renaissance, mais pas que le Gritch intervient. Nous devons nous en sortir tout seuls.
Et le centre ? Demandai-je timidement. C'était la première fois que je mentionnais le technocentre depuis qu'elle en avait parlé le premier jour. Mais elle semblait perdue dans ses pensées et ignora tout au moins ma question.
Si nous voulons échapper au traquenard qui se prépare, dit-elle, il faudra trouver nous-mêmes la solution. À moins que...
Elle tourna la tête.
Vaisseau ?
Oui, Achaîné.
Avez-vous suivi cette conversation ?
Naturellement, Achaîné.
Avez-vous une idée susceptible de nous aider ?
Vous aider à éviter d'être capturé si les vaisseaux de la Pax vous attendent au point d'émergence ?
Oui,
fit Aîné d'une voix irritée. Elle perdait souvent patience quand elle parlait au vaisseau. Je n'ai aucune idée vraiment originale, fit celui-ci. J'ai essayé de me rappeler comment le consul échappait aux autorités locales quand nous traversions un système.
Et alors ?
Demanda Aîné. Comme je l'ai déjà indiqué, ma mémoire n'est pas aussi complète qu'elle devrait l'être.
Je sais, je sais. Mais vous n'avez vraiment aucun souvenir de la manière dont vous avez échappé aux autorités ?
Principalement en les distançant, je pense. J'ai déjà mentionné les modifications apportées par les extros au champ de confinement et au réacteur de fusion. Cela me permet d'atteindre des vitesses de translation C+, beaucoup plus rapidement que les autres vaisseaux. Il en était ainsi, du moins, lors de mon dernier voyage interstellaire. Abétique noua ses mains l'une dans l'autre et s'adressa à la cloison vers laquelle Aîné dirigeait son regard. Vous voulez dire que si les autorités, en l'occurrence les vaisseaux de la Pax, se lancer à notre poursuite à partir de la surface ou de l'espace voisin de Parvati, vous seriez capable d'entrer en translation vers le vecteur Renaissance avant qu'il ne puisse nous intercepter ?
Assurément, répliqua le vaisseau.
Et combien de temps durera la transition ? Demandai-je.
La transition ?
Le temps que nous passerons dans le système avant de pouvoir accomplir le saut quantique vers le vecteur Renaissance.
37 minutes, me répondit le vaisseau, y compris la réorientation, les calculs de navigation et l'établissement des coordonnées dans le nouveau système.
Et si un vaisseau de la Pax nous attendait là-bas quand nous serons en dégiration ?
Demanda Aîné.
Posséderiez-vous des modifications extra qui pourraient nous aider à lui échapper ?
Je ne vois pas lesquelles, fit le vaisseau. Il y a les champs de confinement, mais ils ne sont pas suffisants pour résister aux armes d'un vaisseau torche.
La fillette soupira et se pencha contre la table.
« J'ai retourné la question dans tous les sens, » dit-elle, « et je ne vois pas ce que nous pourrions faire. »
Abétique était songeur, mais il est vrai qu'il avait cet air-là la plupart du temps.
« Pendant que nous cachions le vaisseau et assurions son entretien, » nous dit-il, « une autre modification extra nous est apparue. »«
Laquelle ? » demandai-je. Il désigna du doigt l'étage inférieur, celui de la fosse Holo.
Ils ont amélioré les capacités morphiques du vaisseau. La manière dont il sort son balcon, par exemple. Il peut aussi déployer des ailes pendant le vol atmosphérique. Il peut ouvrir chaque étage à l'environnement atmosphérique en court-circuitant éventuellement l'ancien sas.
C'est très bien, tout ça, fit Aînée, mais je ne vois pas en quoi ça pourrait nous aider.
À moins qu'il ne pousse le polymorphisme au point de se faire passer pour un vaisseau de la Pax ou quelque chose comme ça.
Vous en êtes capable, vaisseau ?
Non, Aînée, fit la voix masculine avec douceur. Les extros ont pratiqué sur moi d'intéressantes transformations piézodynamiques, mais il ne faut pas oublier la loi de la conservation de la masse. Au bout d'une seconde de silence, il ajouta. Désolé, Aînée.
Ce n'était qu'une idée en l'air.
Elle se redressa dans son siège. Il était évident pour tout le monde que quelque chose venait de la frapper. Ni l'androïde ni moi n'avions envie d'interrompre sa méditation. Cela dura 2 minutes. Finalement, elle demanda.
Vaisseau ?
Oui, Aînée.
Vous êtes capable de morpher un sas ou n'importe quelle ouverture simple à n'importe quel endroit de votre coque ?
Pratiquement n'importe lequel, Aînée. Il y a cependant certains carters de communication et certaines zones de propulsion où il me serait impossible de...
Mais au niveau des espaces de vie, l'interrompit-elle, vous pourriez faire des ouvertures de la même manière que lorsque vous rendez la coque transparente ?
Oui, Aînée.
Et l'atmosphère ne s'échapperait pas par ces ouvertures ?
Le vaisseau répliqua d'une voix légèrement vexée. Je ne le permettrai pas, Aînée. De même que pour déployer le balcon, je maintiendrai l'intégralité des champs extérieurs de manière à...
Vous pourriez ouvrir réellement chaque niveau et pas seulement le sas pour le dépressuriser ?
L'obstination de la petite fille m'était encore nouvelle. Elle ne l'est plus aujourd'hui. Oui, Aînée. Abétik et moi nous écoutions sans faire aucun commentaire. Je ne pouvais pas savoir ce que pensait l'androïde, mais j'ignorais totalement, pour ma part, où l'enfant voulait en venir. Je me penchais vers elle pour demander « Cela fait partie d'un plan ?» Elle eut un sourire en coin. C'était ce que je devais appeler plus tard son sourire polisson.
« C'est trop rudimentaire pour être appelé un plan, » me dit-elle. « Et si je me trompe dans mes suppositions sur la raison pour laquelle la Pax veut me capturer ?» Ça ne marchera sans doute pas.
Son sourire polisson devint carrément une grimace.
Ça ne marchera pas de toute manière, je pense.
Je consultais ma montre de poignet. Il nous reste 45 minutes avant d'entrer en dégiration et de savoir si on nous attend ou non de l'autre côté. Veux-tu nous faire part de ce plan qui ne marchera pas ? Elle nous expliqua ce qu'elle avait en tête. Cela ne dura pas longtemps. Quand elle eut fini, l'androïde et moi échangeâmes un regard. « Tu avais raison, » déclarai-je, en me tournant de nouveau vers l'enfant. « N'est pas terrible comme plan, et ça n'a pas beaucoup de chance de marcher. » Le sourire d'Aînée ne faiblit pas. Elle me prit le poignet et le tourna pour regarder la montre.
« 41 minutes, » dit-elle. « Trouve-en un meilleur. »